Strasbourg.
Dans 20 minutes, on se penche sur la crise immobilière. Le plus dur est-il passé? Les taux d'intérêt baissent tout doucement. France Inter, 6h. Le journal, Christelle Rebière, bonjour.
Bonjour à tous. Il se revoit en espérant que c'est la dernière fois. Emmanuel Macron reçoit les agriculteurs ce matin à l'Élysée pour solder les comptes de la crise de cet hiver. Des averses de grêle et des trombes d'eau, les orages ont frappé en Bourgogne et en région parisienne. Dans ce journal aussi, deux sites du groupe automobile Stellantis à l'arrêt. Un sous-traitant fait grève pour sauver ses emplois. Le maire de Londres en passe de rempiler pour un troisième mandat. Sadiq Khan est donné favori pour l'élection de ce jour. Enfin, le PSG s'est pris le mur jaune hier soir, battu 1-0 à Dortmund. Plus d'erreurs possibles pour le match retour de cette demi-finale de la Ligue des Champions. Ce sera mardi prochain.
France Inter.
Se revoir pour mieux passer à autre chose. Emmanuel Macron reçoit les agriculteurs à l'Élysée. Une promesse qu'il leur avait faite au pic de la fièvre en plein salon de l'agriculture. Le projet de loi agricole est en ce moment à l'Assemblée. Un texte qui mêle des mesures de formation, les transmissions d'exploitation ou encore l'accélération des contentieux, par exemple sur les retenues d'eau. Il s'agit ce matin, Simon Le Baron, d'acter la fin de la phase la plus dure de la contestation.
Emmanuel Macron était sans doute un peu trop optimiste le 24 février au salon, à l'issue d'un échange animé avec une délégation d'agriculteurs.
Donc moi je compte sur vous pour que tout le monde revienne au calme là. Moi, maintenant, vous savez que les ministres, la porte est ouverte. Et le rendez-vous dans 3 semaines, il est à la maison.
Bonne soirée dans 3 semaines.
Il a finalement dû attendre plus de 2 mois avant de pouvoir revoir les représentants du monde agricole dans un climat apaisé. Les syndicats majoritaires, FNSEA et Jeunes Agriculteurs, estiment eux-mêmes, après les annonces gouvernementales du week-end dernier, qu'une nouvelle phase vient de s'ouvrir. La vérité, c'est qu'il n'y a plus grand-chose sur leur liste de courses, assure un conseiller du gouvernement. Autrement dit, toutes leurs revendications, ou presque, ont été satisfaites. Pour le président, la réunion du jour doit donc permettre de regarder vers l'avenir, de projeter le secteur dans la résolution des défis des prochaines décennies, la souveraineté agricole à l'heure du dérèglement climatique. Je cite son entourage. L'Élysée estime donc que les conditions sont enfin réunies pour tourner une page.
Simon Le Baron, un Nutri-Score appliqué au bien-être animal, ça concerne les éleveurs, évidemment, et les consommateurs. L'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire nationale propose une série de critères pour élaborer une étiquette sur les animaux d'élevage grâce à une lettre de A à E. Le consommateur serait averti des conditions de vie des animaux qu'il consomme, un bien-être qui prendrait en compte l'élevage, le transport, la nourriture ou encore l'abattage des animaux. Il s'agit d'informer mais aussi de responsabiliser les consommateurs.
Quels dégâts auront fait les orages d'hier ?
De la Bourgogne à l'Île-de-France, ils s'évacuent progressivement vers la Manche et l'Angleterre. En région parisienne, il est finalement tombé l'équivalent de 2 semaines de pluie et les grêlons ont parfois été spectaculaires à Saint-Florentin dans l'Yonne. L'épisode a duré une 20aine de minutes. Fabienne Lanty tient une crêperie dans le village, elle témoigne.
Ça faisait beaucoup de bruit, beaucoup de grêlons qui frappaient dans les carreaux, mais un bruit vraiment intense et alors des coulées d'eau qui portaient tous les grêlons.
Et les grêlons, ils faisaient quelle taille ?
1,5 cm. Vous voyez, je ne sais pas si vous entendez le bruit des grêlons. On l'a enregistré, voilà, avec des éclairs d'orage. C'était assez impressionnant. Ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de choses. On n'a pas de dégâts directs, nous, visiblement, en regardant sur la place. Mais par contre, dans le bas de Saint-Florentin, on a comme de la neige, quoi, des amas de glace. Ah bah oui, c'est étrange, oui.
Des propos recueillis par Ajra Mohamad. En région parisienne, plusieurs vols à destination d'Orly et de Roissy ont dû être déroutés hier soir. On redoute maintenant des crues en Normandie sur le bassin de la Touque, placé en vigilance orange. 5 ans que ça dure, la France est de nouveau la destination économique la plus attractive d'Europe pour les investisseurs étrangers. Résultat du baromètre annuel du cabinet d'audit Ernst & Young. Près de 1200 projets d'installation enregistrés l'an dernier, 40 000 emplois créés. La France est numéro 1 dans 11 secteurs sur 15, notamment dans l'automobile, les équipements industriels ou encore l'intelligence artificielle. L'automobile, justement, 2 usines du groupe Stellantis qui regroupe 14 marques, dont Peugeot, DS ou encore Fiat. 2 usines donc sont à l'arrêt. Un petit sous-traitant, MA France, qui leur fournit des pièces essentielles de carrosserie, est en grève à Aulnay-sous-Bois. Elle emploie 280 personnes et fait travailler 100 d'intérimaires. Mais le site redoute une fermeture et les salariés, Maxime Deps, font grève pour se faire entendre.
se faire entendre, obtenir des réponses sur l'avenir du site. Guerre optimiste, Franck, 53 ans, une carrière à l'usine.
Ça ne va pas durer très longtemps, le temps que PSA s'organise pour pouvoir produire sans nos pièces.
On craint ici tout simplement une délocalisation, que Stellantis décide de se fournir ailleurs.
Ils s'étaient déjà préparés, ils avaient dupliqué des gammes, des outils, pour pouvoir lancer leur production de la Turquie. Voilà. On pense que la Turquie va pas tarder à démarrer. Donc nous, on est encore un petit pion.
Avec la sensation de ne pas compter, surtout pour ceux qui ont travaillé ici avec la blouse PSA il y a quelques années avant d'être externalisés.
Déjà à l'époque, ils nous avaient mis un couteau dans le dos, PSA. Donc on n'est pas étonné, mais on veut pas partir sans rien.
En cas de fermeture, les syndicats estiment à 70 000 euros minimum le montant du préjudice pour chaque salarié. Et si Stellantis décide de se fournir ailleurs, au final, il devra participer. La moindre des choses pour la scène. D'autant que le geste ne coûterait pas cher, selon lui, à Carlos Tavares. Sa rémunération record, forcément dans toutes les têtes.
Il n'y a rien à dire là-dessus. 100 000 euros, c'est...
Par jour.
Par jour, c'est indécent. Donc là, on leur fait mal, bien sûr. C'est le but aussi. On a montré qu'on est 300, mais à 300, on a fait quand même des gros dégâts pour Tavares. Et ça, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'on va continuer.
Stellantis, dont les deux usines d'Ordin dans le Nord et de Luton en Angleterre, resteront fermées encore jusqu'à mardi prochain, faute de disposer des pièces suffisantes fournies par les salariés d'Aulnay.
Mais le travail doit reprendre ce matin à Poissy, chez Stellantis, où l'on assemble des Opel et des DS3. De nouvelles mesures pour lutter contre la fraude et récupérer quelques milliards d'euros. Le ministre aux comptes publics, Thomas Cazenave, explique dans les colonnes des Échos ce matin vouloir s'en prendre aux fraudes sur ma prime rénov, sur les aides à l'apprentissage ou sur le compte personnel de formation. Ces trois enveloppes mobilisent 100 milliards d'euros d'argent public. Un projet de loi devrait être présenté cet automne.
France Inter, 6h06, on vote aujourd'hui dans une partie de l'Angleterre et du Pays de Galles.
Des élections locales qui auront valeur de test pour le gouvernement conservateur de Rishi Sunak qui bat des records d'impopularité. À Londres, le maire Sadiq Khan se prépare lui à un troisième mandat. Les sondages lui donnent autour de 15 points d'avance. Khan, le travailliste, grand favori donc dans la capitale, malgré une campagne violente et de nombreuses critiques. À Londres, Richard Place.
Susan Hall ne cache pas son admiration pour Donald Trump. Elle dit qu'il y a un problème de criminalité dans la communauté noire. Pendant la campagne, elle a inventé avoir été victime d'un pickpocket quand en fait, son sac était resté coincé entre deux sièges du métro, retrouvé sans que rien ne manque à l'intérieur. Elle a aussi beaucoup joué sur les tensions communautaires actuelles, affirmant que les juifs londoniens étaient effrayés par le maire actuel, un maire musulman. Voilà la principale adversaire de Sadiq Khan aujourd'hui. Sur la chaîne LBC, face à elle, il a répondu.
J'ai participé à trois élections locales, trois législatives, et c'est mon troisième scrutin municipal. La candidate conservatrice est la plus dangereuse que j'ai affrontée.
Pas dans les urnes, selon les sondages, où elle s'est effondrée au fil de ses outrances. Pourtant, le bilan de Sadiq Khan n'est pas idéal. Il ne parvient pas à enrayer la criminalité, en particulier les attaques au couteau. La sécurité fait partie de son champ d'action. Les transports aussi. Les principales artères de la capitale sont encore régulièrement embouteillées et sa lutte contre les véhicules polluants avec l'extension de la zone à péage ne convainc pas la population. D'ailleurs, dans les enquêtes de popularité, il n'atteint pas 50%. Au sein même du Parti travailliste, on lui reproche parfois de faire cavalier seul. Londres, Richard Place, France Inter.
L'Angleterre qui a procédé par ailleurs aux premières arrestations de migrants en vue de leur expulsion vers le Rwanda de l'autre côté de la Manche. 66 migrants ont dû être secourus à Dieppe, des femmes et des enfants qui tentaient de traverser la Manche. Ils ont ensuite été acheminés vers un gymnase de la ville. Trois personnes soupçonnées d'être des passeurs ont été arrêtées. Ça tourne mal dans les universités américaines. À UCLA, à Los Angeles, pour la première fois, des contre-manifestants cagoulés s'en sont pris aux militants pro-palestiniens qui occupent certaines parties du campus. Ils leur ont lancé des pavés, des planches, des briques. La police a dû intervenir. Football, le PSG n'a pas fait le mur hier soir à Dortmund, battu 1-0 en demi-finale de la Ligue des Champions. Des erreurs techniques malgré un grand Marquinhos et deux tirs sur les poteaux. Grosse frustration, Julien Froment.
Il faut croire que le Paris Saint-Germain cette saison adore se compliquer la tâche. Les Parisiens ont donné le bâton pour se faire battre hier soir à Dortmund. Un but encaissé évitable et des occasions non concrétisées. C'est le bilan du capitaine Marquinhos.
Ça manquait le but. Je pense qu'on a pris un but aussi dans un détail qu'on avait travaillé. Il fallait pas le prendre un but comme ça. C'est des détails qui font une différence dans une demi-finale.
Marquinhos, le symbole de la soirée du Paris Saint-Germain, fautif sur le but. Il a empêché les Allemands de corser la addition en fin de rencontre. Paris frustrant mais toujours en vie De quoi agacer le gardien Gianluigi Donnarumma.
Ici, c'est toujours difficile de jouer. Il y a les supporters incroyables. Dommage pour le résultat. Tout le monde s'est énervé pour ce soir, mais positif pour le match de retour.
Rester positif, croire en ses chances de qualification, c'est une méthode vieille comme le monde, mais qui a déjà fait ses preuves cette saison au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
Et l'heure de vérité, ce sera donc mardi prochain pour le match retour. L'OM, lui aussi, rêve de finale après une saison compliquée. Il reçoit l'Atalanta Bergame en demi-finale aller de la Ligue Europa et compte sur un vélodrome chauffé à blanc et à guichet fermé.
Christelle Rebière, on enchaîne avec Esprit Sport, il est 6h10.
Esprit Sport, avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS à Grey Knapps.
Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour.
Nous sommes à 85 jours de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Gros plan ce matin sur un sport collectif, le hockey sur gazon. L'équipe de France féminine vient d'enregistrer plusieurs avancées.
Oui, on peut déjà rappeler Mathilde que les deux équipes de France se sont qualifiées pour ces Jeux Olympiques. C'est une grande première, l'équipe de France féminine qui va participer pour la première fois de son histoire à une épreuve olympique alors que la discipline est au programme des JO depuis 1980. La France qui est aujourd'hui la 20e nation mondiale. Et l'autre avancée pour les femmes en hockey sur gazon, eh bien c'est la Fédération française de hockey qui a voté l'autorisation pour les joueuses de choisir entre leur traditionnelle jupe ou un short pour leur tenue de match. Une décision prise en adéquation avec la Fédération internationale. Kathleen Rockall est la vice-présidente de la Fédération française de hockey sur gazon. Elle est au micro de Fanny Lechevestrier.
Il y avait une demande, surtout parce qu'il y avait une thèse qui est sortie en Angleterre qui disait que 3 femmes sur 4 connaissaient des filles qui avaient arrêté le sport parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise dans leur uniforme. Donc effectivement, pour être un sport plus inclusif, il y avait une demande pour qu'on ajuste notre règlement.
Alors la thèse dont elle parle, c'est celle de l'universitaire et internationale anglaise Tess Howard, au sujet donc de l'impact des tenues sur la pratique sportive des femmes. Pour les joueuses de hockey sur gazon en France, il y a évidemment une question d'aisance, de confort pour jouer. Delphina Gaspari est membre de l'équipe de France féminine.
Le plus important, c'est de se sentir à l'aise quand on joue. Si ma copine a envie de mettre un short et que celle de droite elle a envie de mettre une jupe, ça me pose vraiment aucun souci tant qu'elles sont bien.
Alors, au JO de Paris, les Françaises, en short ou en jupette, affronteront au premier tour les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, le Japon et la Chine. Ce sera, Mathilde, à partir du 27 juillet.
Et pour s'entraîner, à partir de demain et jusqu'à dimanche, il y aura des matchs amicaux pour les deux équipes de France de hockey sur gazon, contre l'Allemagne et le Japon. Et ça se passe au stade Yves du Manoir à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Merci pour cet Esprit Sport, Cédric Guillou.
France Inter présente
Xi Jinping, le prince rouge, le podcast sur l'histoire réelle et méconnue du maître de la Chine.
Dominique André.
Qui connaît l'enfance dorée du président chinois? Comment a-t-il survécu à la révolution culturelle? De la mort de Mao au pouvoir suprême, parcours calculé d'un homme puissant qui, depuis 2012, dirige 1/6 de l'humanité.
Xi Jinping, le prince rouge.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
6h13.
France Inter. Le
reportage Grand Angle en Ukraine. Depuis le début de la guerre, environ 7000 civils ont été faits prisonniers par les Russes, surtout dans les premiers mois de l'invasion. 7000 hommes et femmes que Moscou garde au secret en bafouant le droit international. Leurs proches se battent sans relâche pour obtenir des nouvelles, en général sans succès, comme cette femme rencontrée à Kiev par Isabelle Labéry.
Les antidépresseurs la rendent presque euphorique quand elle raconte l'arrestation de son mari par les Russes à Boutcha le 22 mars 2022.
C'est très difficile. Ma santé s'est beaucoup détériorée, surtout ma santé mentale.
Où est détenu son mari? Quel est son état de santé? Les faits qui lui sont reprochés? En 2 ans, 1 mois et 11 jours, Irina n'a jamais reçu la moindre information officielle. Mais elle s'accroche.
Quand je me réveille, il y a des photos de mon mari devant moi. Je les regarde, je les embrasse et je lui souhaite une bonne journée. Ses vêtements aussi sont là. Je les touche et je lui dis d'avoir du courage. Et je surveille les réseaux sociaux pour essayer d'avoir des nouvelles.
Le mari d'Olena, lui, a été arrêté dans la région de Kherson, toujours pendant l'occupation. Journaliste retraité, il donnait des conseils sur sa page Facebook pour aider les habitants à résister à l'envahisseur. Après 9 mois de silence, fait rare, une annonce de jugement pour espionnage.
Le 6 octobre 2023, il a été déclaré coupable et condamné à 13 ans de prison. Je sais qu'il a été torturé à l'électricité, qu'il a été humilié et battu. Là, il est en train d'être transféré dans une colonie dont j'ignore le nom.
Même la Croix-Rouge n'a pas accès aux civils détenus au mépris de toutes les conventions internationales. Mikhail Sava est expert auprès du Centre ukrainien pour les libertés civiles.
Ce qui valide leur emprisonnement, c'est juste un papier signé par le chef régional du FSB, rien d'autre. Leur détention ne repose sur aucune base légale, même pour la loi russe.
Des civils qui ne peuvent pas être échangés contre des militaires, ils doivent faire l'objet de négociations spécifiques que le gouvernement ukrainien ne semble pas pressé d'ouvrir. Eux, à leur retour, ils ne pourront pas être renvoyés sur le front.
Isabelle Labéry, envoyée spéciale de France Inter à Kiev. Et pour plus de reportages et de témoignages, je vous invite à écouter le podcast hebdomadaire Guerre en Ukraine. Un nouvel épisode sera publié ce soir sur l'application Radio France. Il est 6h16, l'heure de lire la presse. Bonjour Claude Eskolovitch.
Bonjour.
On commence par les unes.
La une des DNA qui m'a saisi de bonne heure sur l'avenir, les taxis volants du futur en test près de Karlsruhe, c'est en Allemagne. Et j'ai envie de les essayer. Le nouvel os me fait rêver aussi de notre plus bel été, 1944. 18 extraits extraordinaires de la Libération, premier hebdomadaire. C'est assez vrai. Le Populaire du Centre montre le rêve d'un beau bébé qui s'appelle Samuel Martman, 24 ans, taillé pour les podiums. C'est un culturiste. Il se pose aussi, pour devenir monsieur Olympia, la question de la pureté. Passionnant. Très beau aussi Kylian Mbappé à la une de l'Équipe et du Parisien, mais il n'est pas joyeux. Le leader du Paris Saint-Germain, la main sur la tête, peut-être après son poteau, oui, on connaît l'histoire. À la une de Lyon Républicaine, l'ex-ajaïste Fumu Tamuso, ancien joueur de la JOCR après à Laval, en quête de vérité, il pense que le vaccin du Covid a précipité par des douleurs au tendon la fin de sa carrière. À la une de Libération, un jour après, mais superbe de beauté, Paul Auster, nostalgie new-yorkaise, pas seulement new-yorkaise. Allez, j'en termine. La une de l'Humanité, révélation, salarié intoxiqué, la RATP en faute. Des documents que l'Humanité a pu consulter disent que l'inspection du travail dénonce l'exposition de travailleurs à des risques chimiques. Allez lire, vous verrez.
Et dans votre choix, Claude, ce matin, un bateau.
Kamed Al-Hashimi, avec les autres hommes, avait gonflé sur les dunes près de Vimereux au cœur de la nuit du 23 avril dernier, avant de le porter sur la plage et d'aller chercher les familles qui attendaient dans le bois. Et à l'aube, pataugeant, Ahmed avait amené ses enfants dans le bateau. Il portait sa fille Sarah, 7 ans, sur les épaules. Il était monté en dernier, quand soudain, il le raconte à la Voix du Nord. Un groupe d'une quarantaine de personnes, surtout des Soudanais, sont arrivés en courant. Il n'était pas prévu dans la traversée et le bateau est devenu un piège. Personne ne pouvait bouger. J'avais une jambe à l'intérieur, une à l'extérieur. Le temps que j'aide quelqu'un à monter, je perds Sarah de vue. La fillette a disparu sous la masse humaine. Abed a beau dire aux Soudanais de partir, a beau crier. C'est seulement quand un remorqueur de la marine française va arriver sur zone, quand le bateau se videra, que Hussein va découvrir Sarah, les lèvres et une partie du visage bleu. Et il a su que c'était trop tard. Vous le verrez, le visage doux de Sarah dans la Voix du Nord, donc, et aussi celui de son père, 41 ans, imprégné de malheur et de courage, le courage de parler également, de raconter sa quête sans fin pour une vie ordinaire. Depuis 2010, cet ouvrier du bâtiment irakien rebondit en exil, de refus en refus, d'installation en départ. Belgique, Suède, Finlande, France, désormais, Sarah était née dans son voyage, la fillette du refus d'asile, car Bassora, la ville d'origine de la famille, est considérée comme zone sûre par l'Europe. Le bateau pour l'Angleterre, c'était une fuite pour échapper à l'expulsion. Ahmed ne sait pas où il ira désormais.
Claude Eskolovitch, pour la revue de presse, vous revenez à 9h moins le quart. Il est 6h18, dernière étape toulousaine de votre esprit d'initiative. Cécile Bidot, bonjour.
Bonjour Mathilde.
Vous avez arpenté les trottoirs de la Ville Rose avec un botaniste.
Un botaniste à craie, une espèce rare. Vous allez comprendre cette histoire de craie dans un instant. J'ai retrouvé Boris Pressec qui travaille au Muséum de Toulouse dans le quartier Borde-Rouge au nord de la ville.
On a ici un gnafal, ici un pâturin. Un laiteron qui a une fleur là.
Cet inventaire à l'après vert, ce sont simplement les noms de plantes sauvages qui poussent sur les trottoirs.
Tous les défauts en fait, du bitume, des murs, des caniveaux, vont être colonisés très très vite par des graines. Et de ces graines vont naître des plantes qui sont alors, assez familières aux yeux. Hein, et puis au niveau de la forme, notamment ici, on a la pariétaire de Judée. On l'appelle aussi épinard des murailles, herbe au vitrier.
Et voici Boris en train de noter à la craie sur le trottoir le mot pariétaire. Ça fait 5 ans qu'il fait ça régulièrement pour informer les passants sur la nature en ville, en partant du principe que lorsque l'on connaît le nom d'une plante, on la respecte davantage.
C'est quand même de l'émotion de se dire que là, sur ce milieu qui est a priori très inhospitalier, il y a une plante qui finit par fleurir. C'est la poésie sur le bitume.
On continue peut-être sur ce trottoir.
Là, il y a une plante intéressante. C'est une plante qu'on appelle la capsèle bourse à pasteur. Ces fruits, ils ont une forme de petit cœur. Capsèle boursa pasteur. Bon, ce qui me motive, c'est de partager cette connaissance et puis d'essayer de protéger aussi un peu ces espèces parce qu'en fait, c'est une nature qui va rendre des services. Elle va rafraîchir l'atmosphère des trottoirs. Et puis, il y a tout un cortège de biodiversité qui est quand même très important. Donc, en gros, la plante nourrit des insectes qui vont nourrir des oiseaux qui peuvent aussi bénéficier, si on devait réduire la nature à ses bénéfices, qui peuvent aussi bénéficier à l'humain, par exemple en pollinisant les plantes des jardins.
Parfois, Boris Pressec dessine aussi un petit logo, une croix quand c'est une plante médicinale, une fourchette si elle est comestible, avec de temps en temps des surprises qu'il aime partager avec les gens qui le sollicitent.
Voilà, en fait, on a une plante qui fréquente beaucoup les trottoirs, c'est la laitue vireuse. Donc quand on coupe une feuille, par exemple, voilà, on a un lait blanc, et dans ce lait, il y a des principes actifs qui vont modifier l'état de conscience.
Et autrement, elle est consommable en salade, justement ?
Oui, elle est consommable, mais à petite dose, parce que c'est une psychotrope.
Et ouais. Au niveau du goût, elle est...
Elle est amère.
Vous auriez deviné, madame, que c'était une laitue là, qu'on avait sous les yeux sur ce trottoir ?
Pas vraiment, non. Je suis toujours émerveillée, en fait, de voir la force de la nature qui sort du béton. Et ça me ravit, parce que je me dis qu'elle est beaucoup plus forte que ce qu'on veut lui imposer, quoi. Donc c'est une action formidable, parce que justement, ça permet de montrer aux gens que ce n'est pas des mauvaises herbes. C'est de porter un autre regard sur les plantes.
Depuis 5 ans qu'il arpente les trottoirs de Toulouse, Boris Pressec, qui propose aussi des cours de botanique au muséum, a recensé une centaine de plantes différentes.
Le portrait de ce botaniste à craie est à retrouver sur la page web de l'Esprit d'Initiative, la chronique de Cécile Bidot.
Une page web où vous pouvez nous écrire, n'hésitez pas à nous donner vos bonnes idées, ainsi que sur la page Instagram Esprit d'Initiative.
Bonne journée Cécile.
Bonne journée.
France Inter. Mathilde Munoz. 5-7.
Il est 6h22, la crise immobilière est-elle enfin derrière nous? Les taux d'intérêt baissent depuis plusieurs semaines, mais le secteur du bâtiment, lui, souffre toujours. On fait le point avec vous, Sandrine Allonier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du groupe de courtiers en crédit immobilier, vous financez. Est-ce que la baisse est enclenchée pour de bon, la baisse des taux?
Oui, elle est enclenchée pour de bon et là, elle se confirme au mois de mai. On vient de recevoir les nouveaux barèmes de taux, donc les taux qui vont être pratiqués dans les semaines qui viennent et ils sont à nouveau en baisse. Donc, c'est une très bonne nouvelle.
On
ça veut dire que progressivement, voilà, les taux baissent et aujourd'hui, on est en moyenne à 3,50 sur 15 ans, 3,80 sur 20 ans et 4% sur 25 ans. Mais on peut aujourd'hui trouver des taux inférieurs à 4%, donc ça, c'est des taux quand même avantageux.
Est-ce qu'un jour, on retrouvera des taux autour de 1%?
Alors voilà, il faut oublier cette ère des taux à 1%.
Jamais,
on avait
plus jamais.
En 2021. Non, on était vraiment dans un contexte post-Covid avec un excès de liquidité dans l'économie et puis surtout une banque centrale européenne qui faisait des taux à 0%. Aujourd'hui, les taux de la BCE sont aux alentours de 4%. Donc oublions l'ère des taux à 1%. Des taux aujourd'hui, des taux avantageux, on est entre 3 et 4%. Et ça, sur une longue période, ça reste des taux très bas. Il ne faut pas oublier que dans les années 80, on empruntait à 10%.
Quels sont les effets de cette baisse des taux?
Alors, les effets sont positifs pour les emprunteurs, évidemment, puisque des taux qui baissent, c'est la possibilité d'emprunter plus. Il n'empêche que...
Ça leur redonne de l'oxygène aux acquéreurs.
Ça leur redonne, voilà, de la capacité d'emprunt. Par exemple, un couple qui gagne 4 200 euros de revenus, bon, bah, quand les taux étaient à 4,20%, ils pouvaient emprunter 223 000. Aujourd'hui, avec des taux à 3,7, c'est 233 000.
Donc, ils ont gagné 10 000.
Voilà, une baisse des taux de 1 demi-point, c'est 10 000 euros de capacité d'emprunt regagné. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en 2021, ils pouvaient emprunter 300 000. Donc du coup, des taux qui baissent, c'est bien, on peut emprunter un peu plus. Mais en fait, il faut aussi que les prix baissent par rapport au niveau actuel. Puisque aujourd'hui, ça bloque encore. Donc oui, les emprunteurs sont de retour, mais on reste avec des prix qui sont aujourd'hui trop élevés.
Ça veut dire que les transactions, voilà, ça ne s'emballe pas non plus en ce moment.
Voilà, on reste sur une reprise timide, malheureusement. On pensait qu'on pouvait tout miser sur la baisse des taux pour une reprise.
Ça suffit pas.
Et on voit bien voilà, que le marché reste encore grippé parce que les vendeurs ne baissent pas leurs prix. Pourquoi ? Parce qu'on a un manque d'offres. On manque de biens en France et on voit bien que le secteur de la construction en ce moment ne suit pas.
Alors justement, j'allais développer ça avec vous. Juste sur les biens immobiliers, c'est partout, que ce soit dans le neuf, dans l'ancien, les grandes villes, les petites villes, les campagnes, c'est partout pareil ?
Alors non, évidemment. Aujourd'hui, voilà, y a des marchés très différenciés en fonction des régions. Là où les prix étaient les plus élevés, ce sont là où ils ont le plus baissé, donc Paris, les grandes villes. Donc là, voilà, là on commence à avoir une reprise. Mais voilà, dans les villes moyennes, on a encore des prix qui restent élevés pour les primo-accédants, hein, parce qu'ils ont beaucoup augmenté post-Covid. Et là, ça bloque encore. Et le littoral, n'en parlons pas, on a des prix qui n'ont pas baissé.
Et donc, le secteur du bâtiment est complètement en crise.
Oui, oui. C'est l'ensemble voilà, du parcours qui a été bloqué. Les banques ont fermé le robinet du crédit pendant 2 ans. Donc, on avait eu plus d'investisseurs, plus de primo-accédants. Et aujourd'hui, du coup, ça se ressent sur des programmes immobiliers qui ne sont pas lancés, une offre de biens qui n'arrive pas et donc des prix qui ne baissent pas.
Oui, on a eu des chiffres hier, les permis de construire qui ont chuté de 20% en un an et les faillites aussi chez les promoteurs qui augmentent de 34%. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans le secteur
ou... Non, non, jamais.
Vous, de votre expérience, c'est inédit.
C'est l'ensemble de la filière qui est grippée, hein, que ce soit la construction, la rénovation, la transaction. Donc voilà, cette baisse des taux, elle va permettre de remettre de l'huile dans les rouages, hein, puisque les emprunteurs reviennent progressivement. Mais voilà, il faut une phase d'adaptation. Il faut que les vendeurs comprennent qu'on ne peut pas vendre au même niveau qu'il y a 2 ans et qu'il faut rogner un petit peu sur sa plus-value potentielle. Le marché va mettre du temps à redémarrer et ce, malgré cette baisse des taux qu'on constate.
Et est-ce que les banques pourraient faire plus ?
Alors, les banques déjà font beaucoup en revenant sur le marché. Hein. Certaines même font de la pub télé, communiquent en disant voilà, on veut le retour des emprunteurs, revenez. Elles ont mis en place...
Pourquoi vous signez cette pub ? C'est parce que c'est rare ça ?
Oui, oui, c'est très rare. On n'a pas vu ça depuis des années, depuis 5 ans, qu'une banque soit prête à payer pour faire revenir des emprunteurs.
Payer de la pub pour dire venez chez nous.
Donc ça, c'est très positif. Bon, ça montre aussi qu'aujourd'hui, elles prêtent dans des conditions où elles ont des marges convenables. C'est un produit rentable pour elles, donc tant mieux, c'est ce qui les incite à prêter. Elles vont faire plus avec la Banque Centrale Européenne qui devrait baisser ses taux en juin. Ça, c'est important d'avoir cette perspective.
Oui, c'est le gouverneur de la Banque de France, hein, François Villeroy de Galhau, qui l'avait annoncé d'ailleurs sur France Inter.
Tout à fait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle puisque les banques vont elles-mêmes emprunter moins cher et elles vont répercuter du coup ces meilleures conditions sur les emprunteurs. Mais là déjà, je dirais qu'elles font beaucoup, c'est-à-dire qu'elles étudient beaucoup de dossiers, des profils un peu plus atypiques que ces dernières années. Alors elles demandent toujours 10% d'apport personnel et un CDI, mais si on veut emprunter, en ce moment, c'est le moment d'aller taper à la porte de sa banque.
Mais quand on voit les profits qu'elles ont engrangés l'an dernier, profits records, que ce soit pour les banques françaises ou les banques européennes, pour les banques françaises, 27 milliards d'euros, pour les 20 plus grands groupes bancaires européens, 100 milliards, on ne peut pas se dire qu'elles pourraient faire un peu plus d'efforts ? C'est pas faisable ?
Alors, si, évidemment, mais voilà, ça reste quand même le secteur privé. Hein. Bruno Le Maire avait émis l'idée de faire un prêt à taux bonifié. Oui, évidemment, prêter avec un point de moins, ce serait la meilleure idée pour relancer le marché. Voilà, mais c'est vrai que les banques restent le secteur privé et elles sont libres, évidemment, de la politique de taux qu'elles appliquent.
Sandrine Allonier, merci beaucoup, porte-parole du groupe de courtiers en crédit immobilier. Vous financez, vous étiez l'invité du 5-7.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
6h28.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Marie-Pierre Planchon.
Bonjour Mathilde.
Le temps reste très perturbé.
Et oui, dès ce matin, de la Normandie, des Hauts-de-France au pourtour méditerranéen, excepté quand même sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, et sous le vent, avec un ciel très couvert, des pluies parfois soutenues sur le Grand Est, avec encore des orages sur les Ardennes, des pluies aussi parfois soutenues sur la Bourgogne, la Franche-Comté, la région Auvergne et la région Rhône-Alpes. Puis sur la moitié Est, restera aussi sous un ciel bien chargé sur la façade atlantique. Ce sera un régime d'averse, par exemple, sur la moitié Ouest, avec donc qui vont affecter les régions allant de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine. Ces averses seront plus marquées sur le sud-ouest. Elles seront accompagnées également de rafales de vent. Mais la situation va s'améliorer un petit peu sur le sud-ouest où les averses seront un petit peu moins fréquentes, mais toujours du vent dans l'après-midi. Et ces averses s'étendront aussi en journée de la Basse-Normandie au Val-de-Loire, aux Pyrénées. La Corse, elle restera sous un ciel nuageux avec quelques ondées parfois orageuses à cause d'une goutte froide qui reste stagnée sur le golfe de Gênes. Et puis à noter qu'il neige sur les Pyrénées et le Massif central.
Et les températures sont plutôt basses pour la saison.
Oui, ce matin, plus bas, il fait 3 en Lozère, 6 à Brest et à Saint-Girons, 7 à Châteauroux et Laval. Il fait 10 à Lille, 11 à Paris, 11 à Perpignan également, 12 à Strasbourg et 14 à Calvi. Et cet après-midi, idem, ça va baisser, 10 à Aurillac, pas plus de 12 à Lyon, 14 à Brest, Montélimar et Paris. Vous aurez 15 à Nevers, 16 à Biarritz, 19 à Strasbourg et 17 à Perpignan.
Marie-Pierre Planchon, vous nous retrouvez, enfin on vous retrouvera, vous nous rejoignez tout à l'heure avec toute l'équipe du Carrefour, ça marche pareil. Avec toute l'équipe de Carrefour, il y aura notamment Anthony Bélanger pour son Histoire du Monde et cette révolution pour les taxis grecs. Ils n'ont plus le droit désormais de refuser les cartes bleues. France Inter, 6h30. Le journal, Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. RATP, aiguilleur du ciel, à qui le tour avant les Jeux Olympiques? Les éboueurs viennent de dégainer un préavis de grève comme Sudrail en Ile-de-France. Coup de pression pour obtenir des primes conséquentes pour les Jeux. La une ce matin, c'est aussi ce nouveau plan de lutte contre la prostitution dévoilé aujourd'hui. Le gouvernement veut plus de répression contre les proxénètes et les clients. À Gaza, toujours pas de trêve. On fera le point sur ces hôpitaux de campagne qui permettent d'assurer les soins. On s'intéresse aussi à ces Français musulmans partis vivre à l'étranger parce qu'ils se sentent stigmatisés en France. Et puis nous serons à Marseille, à la Cité Radieuse de Le Corbusier. Elle accueille aujourd'hui le défilé Chanel, collection croisière.
France Inter.
Chacun cherche sa prime à la hauteur de l'événement. Les Jeux Olympiques cet été, moyen de pression pour négocier dans les services publics notamment. Et c'est donc autour des cheminots d'Île-de-France. Ils viennent de déposer un préavis de grève pour le 21 mai sur les lignes RER et Transilien, Maxime Debs.
Selon ce tract de Sudrail, la SNCF, sa direction, se contenterait de distribuer des miettes aux agents pour les JO. Discussion toujours en cours et table ronde prévue le 22 mai prochain. C'est d'ailleurs pour ça que la date du 21 a été cochée pour cette grève francilienne, laquelle s'inscrit dans un contexte où la RATP a de son côté déjà en partie dévoilé son jeu. Les conducteurs de métro toucheront a priori, sous condition, une somme allant de 1600 à 2500 euros durant les Jeux. Alors pourquoi pas autant pour les conducteurs RER et Transilien de la SNCF. La SNCF où la base était fixée au départ à 50 euros brut par jour de présence cet été. Sudrail demande le double en net, repos compris. À la CGT, certains estiment qu'il faut aller au maximum vu les cadences, les flux de voyageurs attendus, quand d'autres seraient plutôt à freiner. Attention à la course à l'échalote, s'inquiète un syndicaliste. Gonfler l'enveloppe, c'est bien, mais ce n'est pas, je cite, du pognon en veux-tu en voilà sûr de moi qui réglera la question du train au quotidien. Il faudra aussi penser à l'après-JO.
Maxime Debs, hier aussi, préavis des éboueurs franciliens. Pour toute la durée des Jeux, ils réclament une prime exceptionnelle de 1900 euros. Et à l'approche des Jeux Olympiques, là aussi, comment mieux lutter contre la prostitution et l'exploitation sexuelle? Le gouvernement présente aujourd'hui un nouveau plan pour mieux appliquer la loi de 2016 qui pénalise les proxénètes et les clients, Charlotte Piret, mais plus les prostituées.
Une vingtaine de mesures pour tenter de mieux et différemment lutter contre la prostitution. À commencer par rappeler la posture abolitionniste de la France, un des rares pays européens, avec la Suède notamment, a refusé de faire de la prostitution un métier comme les autres. Dès lors, mieux lutter implique une plus grande répression, certes des proxénètes, mais aussi des clients. C'est encore très peu le cas. Et lutter différemment pour s'adapter à sa dimension numérique, via les sites internet ou applications de rencontres, à ce qu'on appelle la prostitution logée et la nécessité de mettre en garde des sociétés type Airbnb ou Gîte de France, plus encore dans la perspective des Jeux Olympiques, mais aussi, voire surtout, l'immense défi des mineurs. Près d'un tiers des 40 000 victimes de la prostitution en France et un nombre en constante augmentation, il a presque doublé en 10 ans. Des mineurs qui portent plus que les autres encore l'une des caractéristiques communes à toutes les victimes de prostitution, la vulnérabilité. Ce qui fait dire à des acteurs impliqués sur ces questions qu'il manquera aussi vraisemblablement dans ce plan dévoilé aujourd'hui la prise en charge de volets comme le handicap, handicap ou les personnes en situation irrégulière.
Charlotte Piret, la France championne d'Europe de l'attractivité. C'est la bonne nouvelle du jour. Pour la 5e année consécutive, les projets d'investissements étrangers y sont plus nombreux qu'au Royaume-Uni et en Allemagne. Près de 1200 projets en 2023 pour 40 000 emplois créés.
Et on y reviendra dans une dizaine de minutes dans l'histoire économique avec Emmanuel Duteil. Et vous verrez que le tableau n'est pas si rose. France Inter, 6h34, le Hamas doit dire oui. Les mots du chef de la diplomatie américaine qui fait tout ce qu'il peut pour obtenir une trêve à Gaza.
Anthony Blinken à Jérusalem hier, alors qu'on attend toujours la réponse de l'organisation palestinienne à la proposition de cesser le feu négocié avec Israël. Il a aussi redit son opposition à une offensive israélienne sur Rafah, dans le sud de l'enclave. Plus au nord, des ONG tentent de réinvestir l'hôpital Nasser de Khan Younes pour offrir des soins aux centaines de milliers de personnes qui pourraient y être évacuées. 11 hôpitaux seulement fonctionnent partiellement dans toute la bande de Gaza. Étienne Monin, les soins sont désormais essentiellement assurés dans des hôpitaux de campagne.
Médecins sans frontières fait partie des trois ONG qui essayent de remettre l'hôpital Nasser sur pied. Les bâtiments ont été au centre des combats pendant 2 mois. Michel Lacharité est responsable des opérations d'urgence à MSF.
L'aile médicale où MSF avait son activité pour les brûler a lui-même été touché par un tir d'artillerie.
D'ici une dizaine de jours, malgré les difficultés, l'ONG espère remettre en route les urgences, la chirurgie orthopédique et les soins pour les brûler. C'est une course contre la montre pour être prêt en cas d'offensive sur Rafah.
On est en train de faire les inventaires et d'essayer de voir ce dont on a besoin et qu'est-ce qu'on peut apporter très rapidement en termes de préparation à l'offensive et d'être capable d'accueillir des blessés.
Mais aujourd'hui, la majorité des lits à Gaza se trouvent dans les hôpitaux de campagne. Ils ont été montés par des ONG ou des pays. Ils ont le soutien des Israéliens. Michel Lacharité.
Nous avons dû évacuer au cours des derniers mois, à 9 reprises, des structures hospitalières pour des raisons de sécurité, parce qu'ils étaient touchés, parce qu'ils étaient sommés d'évacuer. Nous arrivons aujourd'hui à la conclusion que la seule façon de travailler, c'est d'amener un hôpital de campagne.
MSF travaille donc en parallèle à la mise sur pied de 2 hôpitaux de campagne dans le centre de l'enclave.
Étienne Monin, la Russie a usé d'armes chimiques contre les soldats ukrainiens. Accusation des États-Unis qui parle d'une molécule, la chloropicrine, aussi utilisée comme pesticide pour déloger les forces ukrainiennes et avancer sur le front. Autre accusation signée Human Rights Watch, l'armée russe aurait exécuté des dizaines de soldats ukrainiens fait prisonnier ou qui s'apprêtait à se rendre.
La France, tu l'aimes, mais tu la quittes.
C'est le titre d'un livre qui fait beaucoup de bruit en ce moment. 3 chercheurs y racontent les destins de Français musulmans partis vivre à l'étranger parce qu'ils se sentent discriminés et stigmatisés. 140 entretiens approfondis à partir d'un échantillon d'un millier de personnes. François Ventéjou, vous avez interrogé quelques-uns de ces exilés des dernières années.
Au début des années 2000, Sophie travaille en CDI comme diététicienne dans une multinationale à Paris. Elle vient de se convertir à l'islam et rapidement, elle comprend que sa religion pose problème.
On m'a dit, là, tu peux pas vraiment jeûner parce que tu comprends, faut qu'on mange ensemble et puis avec les clients ou avec les... C'est assez sournois la façon dont on vous le dit pas, on vous dit pas, c'est un problème. Mais il y a ce malaise en fait.
À 22 ans, elle décide de changer d'air, direction le Canada. Et là, elle découvre une mentalité aux antipodes.
Tu viens avec ce que tu es et on t'accueille comme tu es. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on le vit après beaucoup d'années en France, on se rend compte que ça n'a pas de valeur.
Un regard de défiance qui s'est exacerbé avec les attaques contre Charlie Hebdo, d'après Ahmed.
Par exemple, moi, au travail, on m'a demandé de me justifier sur ce que j'en pensais de ces attentats-là. Donc, dès qu'il se passait quelque chose, il fallait que, en tant que musulman, je dise si j'étais choqué de ce qui venait de se passer, alors que c'est des choses abominables.
Depuis son déménagement en 2018, il vit et travaille au Qatar. Et comme lui, beaucoup de Français musulmans ont quitté leur pays après ces attentats. Olivier Esteves est l'un des auteurs du livre.
On a grosso modo 68% de nos enquêtés qui ont quitté la France depuis 1 à 5 ans.
S'il n'existe pas de chiffre officiel, selon lui, ces départs se comptent en plusieurs dizaines de milliers.
François Ventéjou, Bourgogne, Île-de-France, Normandie, la trajectoire des orages de la soirée et de la nuit, forte pluie et grêlons sur les vignobles de Chablis. En région parisienne, le trafic a été suspendu à Orly et Roissy.
Roissy, une trentaine de vols déroutés pendant une demi-heure. Les orages se sont ensuite évacués par la Manche. Loin de la Fashion Week et de Paris, Chanel investit Marseille et un paquebot de béton pour présenter sa collection croisière. Aujourd'hui, c'est la cité radieuse de Le Corbusier, emblématique bar des années 50. Le bâtiment est classé. Le défilé aura lieu sur le toit, devant 500 invités triés sur le volet. Maya Baldouro-Fredon, ça fait beaucoup d'agitation pour les habitants du quartier.
Il y a les heureuses.
On dit toujours que la mode, c'est pour Paris. Eh bien, pour la première fois, je suis honorée que la mode aussi passe par Marseille.
Formidable. Dans la mesure où la nature est nettoyée avant cet événement, et qu'il faut un événement comme ça pour qu'on prenne conscience que la nature est importante, moi je dis, allez, tous les jours un défilé Chanel.
Et il y a celles qui auraient préféré éviter les flashs des photographes.
Le parking est partiellement interdit. Ça prend énormément de place et d'embarras.
15 jours, vous avez tout un quartier qui est bouclé, quoi. C'est pas normal.
Effectivement, au pied de la cité radieuse, les agents de sécurité filtrent les entrées. C'est que Marseille est devenue tendance. Mais pour Bruno Pavlovski, président de Chanel Mode, ça va au-delà.
Je pense que c'est plus que tendance, cette position unique de Marseille par rapport à la Méditerranée, par rapport à la création, par rapport à la jeunesse. Il y a plein de choses qui nous ont attirés. J'ai cette énergie créative, les artistes qui ont été une source d'inspiration pour la collection.
Qui sera dévoilée aujourd'hui. Le premier défilé est à 10h, le second à 16h.
Enfin, tout va donc se jouer mardi prochain pour le PSG. Aura-t-il sa place en finale de Ligue des Champions après la défaite d'hier soir en match aller des demi, 1-0 dans le stade de Dortmund. L'égalisation plusieurs fois frôlée mais jamais atteinte. Mardi, les Parisiens devront donc gagner avec 2 buts d'écart au Parc des Princes pour filer à Wembley en finale. Florence Paracuelos, vous revenez pour le journal de 8h. Le grand entretien de France Inter portera ce matin sur les mobilisations pro-palestiniennes dans les universités aux États-Unis et en France. Mobilisations qui n'ont clairement pas la même ampleur. 3 invités seront là pour nous éclairer à 8h20.
France Inter, 20h10, Eva Bester.
Ce soir, émission spéciale en hommage à l'écrivain américain Paul Auster. Nous parlerons de son œuvre et de son héritage littéraire avec des gens qui l'ont étudié ou connu.
Grand Canal, tous les jours à 20h10 sur Inter.
IKEA. On est quand même bien au soleil sur notre balcon, hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait « Je vous sers quelque chose ?»
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez de moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
6h41.
France Inter. Le 5-7.
Voici le carrefour du 5-7, 5 chroniques et donc autant de chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour Mathilde.
L'histoire du monde, Anthony Bélanger.
Eh bien désormais, les taxis grecs vont devoir accepter le paiement par carte bleue et croyez-moi, ils n'aiment pas ça.
L'histoire économique, Emmanuel Dutheil.
L'attractivité record de la France à l'épreuve des faillites d'usines historiques.
Capture d'écran, Eva Rock.
Ah, est-ce qu'un jour des robots feront ces chroniques à notre place?
Assurément.
Allez savoir.
Ouais. Un robot ne pourra jamais remplacer Daniel Morin.
Dommage.
Peut-être d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez le principe d'accompagnement des gosses seuls dans le train? Oui,
ouais,
oui. Bah, la SNCF, pas trop. Hein. 3 enfants qui devaient être accompagnés entre Lille et Rennes ont été débarqués à Roissy. Voilà. Heureusement, il n'y a pas d'accord SNCF Air France, sinon ils partaient à Tokyo.
L'histoire politique nous est racontée ce matin par Mathilde Sirot. Vous êtes rédactrice en chef au Point et vous nous emmenez dans les coulisses du pouvoir à l'Élysée où s'est tenue mardi soir une soirée un peu spéciale.
En toute discrétion, puisque le rendez-vous ne figurait pas à l'agenda officiel, le couple Macron a reçu à sa table plusieurs figures de la Sarkozy. Dans le salon des ambassadeurs de la présidence, là où se tient chaque semaine le Conseil des ministres, le président et son épouse ont longuement dîné avec, entre autres, l'ancien sénateur Les Républicains Pierre Charron, l'ex-patron de la police nationale Frédéric Pechenard, l'ancien communicant de Nicolas Sarkozy Franck Louvrier, mais aussi Hervé Marseille, éminent sénateur centriste. Une soirée qui fleurait bon l'ancien monde. Et quelques minutes plus tôt, d'ailleurs, Pierre Charron avait reçu des mains du chef de l'État les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Car Emmanuel Macron s'est pris d'affection pour ce baron de la droite, 50 ans de politique au compteur, redoutable stratège, dont il partage la même passion pour le cinéma d'Audiard et ses répliques cinglantes. Un personnage biberonné au RPR, l'exacte antithèse de la Startup Nation. Bref, ambiance tonton flingueur à l'Élysée.
Bon, c'était évidemment pas juste une soirée entre copains, il y avait un intérêt politique.
Alors, sans surprise, Mathilde, les discussions ont porté sur la suite du quinquennat et surtout sur l'après-européenne. Comme à son habitude, le président a profité du repas pour sonder ses convives, l'air de rien. Alors, comment tu sens les choses? Et toi, que penses-tu de tel ou tel scénario? Lui, Emmanuel Macron, pense que sa candidate Valérie Hayer peut encore éviter la catastrophe. Mais autour de la table, beaucoup lui ont dit leur scepticisme. Et tous ont porté le message suivant, alors qu'un revers dans les urnes se profile, que les Républicains à l'Assemblée veulent censurer le gouvernement à la rentrée, Emmanuel Macron doit à tout prix prendre une initiative et renverser la table dès le lendemain des élections.
Quel type d'initiative ?
Alors, ces hommes de droite ne sont pas sarkozystes pour rien. Comme l'ancien président, tous pensent qu'Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix pour échapper à l'enlisement de son mandat que de sceller un accord avec la droite. Le chef de l'État en parlait le 7 mars lors d'un autre dîner secret, cette fois-ci avec Gérard Larcher, le président LR du Sénat. Le score prédit à François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux européennes n'étant pas forcément très glorieux, il s'agirait donc pour le président de racheter les LR à la baisse, de profiter d'une possible déroute de la droite le 9 juin.
Mathilde Sirot pour l'Histoire politique. Quelle est la une de votre journal Le Point cette semaine ?
Le grand braquage ou l'histoire du chantage réussi des syndicats avant les Jeux Olympiques.
Il est 7h moins le quart. L'histoire du monde, Anthony Bélanger. Hier a été une journée très spéciale pour les taxis grecs.
Oui, on peut même parler de petite révolution pour les quelques 25 000 taxis grecs. Depuis hier donc, ils sont tenus d'accepter le paiement par carte bancaire ou téléphone bien sûr. Jusqu'alors, la quasi-totalité des transactions s'effectuait en liquide et parfois de façon totalement baroque. Tous ceux qui ont déjà pris un taxi en Grèce savent que l'on se retrouve souvent à deux ou trois clients dans la voiture, chacun payant son trajet en argent, sonnant et trébuchant, bien sûr. C'est donc fini, ou presque, parce que les taxis grecs détestent cette obligation et trouveront mille et une façons de la contourner, la machine en panne, par exemple.
Et les taxis sont les seuls concernés ?
Non, bien sûr. Hein. Les péripteros aussi. Vous savez, ces kiosques typiques des villes grecques où l'on trouve de tout, des cigarettes, aux journaux et en passant par les piles, les chips ou les cartes postales, eux aussi doivent maintenant accepter les cartes bancaire, mais contrairement aux taxis, leur mauvaise humeur fiscale est moins médiatisée. Les chauffeurs ont évidemment beaucoup manifesté. La dernière fois, en février à Athènes, ils ont même bloqué le centre-ville. Désormais, en Grèce, 90% des 350 000 entreprises commerciales acceptent le paiement électronique, même s'il reste encore quelques brebis galeuses, les pompiers, les électriciens...
Les pompiers aussi... ou les plombiers ?
Les plombiers, pardonnez-moi, les plombiers. les pauvres. Les électriciens, les médecins, les architectes et les avocats.
Et si les paiements électroniques sont rendus obligatoires, j'imagine qu'il y a une raison fiscale derrière.
Bien vu. Hein. Il ne s'agit pas seulement d'obliger les artisans et les commerçants à accepter le paiement par carte, mais bien de relier ces transactions au fisc. C'est même tout l'enjeu. On estime qu'en 2017, un tiers seulement des transactions échappaient à la TVA. Cinq ans plus tard, ce chiffre a été divisé par deux et l'administration fiscale compte encore mieux faire et vise la moyenne européenne, à savoir 9%. Pour cela, l'administration fiscale donc multiplie les contrôles 70 000 l'année dernière.
Mais est-ce que les Grecs utilisent vraiment la carte bleue ?
Alors pour tout dire, la Grèce revient de très loin. Il y a encore une dizaine d'années, seuls 5% des transactions étaient électroniques. Ce qui a tout changé, eh bien figurez-vous que ce sont les restrictions sur les retraits en liquide imposés au plus fort de la crise de 2008. Les Grecs ont alors compris qu'en payant par carte, ils se libéraient de ces contraintes bancaires Désormais, 39% des transactions s'effectuent par carte. La Grèce a ainsi rejoint la moyenne européenne. Mais le meilleur signe que cette politique fonctionne, eh bien, ce sont les revendications des taxis. Vous vous souvenez, en février, lorsqu'ils ont bloqué Athènes, ils voulaient certes que les VTC soient mieux régulés, un grand classique, mais surtout, ils réclamaient une baisse des taxes, preuve qu'ils la payent désormais.
Anthony Bélanger, il est 6h47.
Histoires économiques avec la Carac, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
Emmanuel Duteil, vous revenez sur les récents déboires de fleurons industriels.
Oui, on a plusieurs fois parlé ici du groupe de services informatiques Atos. L'État a dû venir à sa rescousse en début de semaine pour reprendre les activités sensibles. On reste quand même à trouver maintenant un groupe d'investisseurs industriels pour l'aider dans sa tâche et accessoirement pour payer. C'est ajouté ces dernières semaines la possible vente des laboratoires de médicaments génériques Biogarant. Leur propriétaire, le groupe Servier, souhaite les céder pour se développer en oncologie sur les cancers. Des groupes indiens seraient notamment sur les rangs, ce qui fait peser des doutes sur l'emploi en France et mine de rien quand même sur notre souveraineté en matière de médicaments. On peut aussi ajouter la scieriste Ascométal, régulièrement en difficulté, qui lui cherche des repreneurs pour tous ses sites français. Et puis on peut aussi citer le cas de Duralex, le fabricant de verre, vient tout simplement de se placer en redressement judiciaire.
Et ces défaillances, là, elles ont tout un lien, des causes similaires ?
Alors, à chaque cas pourrait justifier par des raisons particulières, mais c'est en tout cas un peu l'heure de vérité du quoi qu'il en coûte. C'est en tout cas ce que me confiait récemment une source gouvernementale. Autrement dit, une fois les aides levées, les prêts garantis par l'État à rembourser, la crise énergétique, eh bien beaucoup d'entreprises se retrouvent aujourd'hui en grande difficulté. Même si l'on ouvre toujours plus de sites industriels que l'on en ferme, clairement, la tendance est moins positive en ce moment, me confirmait cette même source. Il suffit de voir les défaillances d'entreprises revenir à des niveaux élevés pour s'en convaincre.
Parmi les entreprises que vous venez de citer, il y a le cas de Duralex. Cette entreprise a été plusieurs fois aidée pourtant.
Vous avez tout à fait raison. Et ça devient même un cas emblématique de nos difficultés. Parce que là aussi, malgré les prêts et le soutien récurrent de l'État, l'entreprise n'arrive tout simplement pas à retrouver le chemin de la croissance. Alors il y a quand même des actifs. La marque est forte. On est nombreux à avoir cherché notre âge un jour au fin fond des verres Duralex. Moi, c'est 44. Il y a aussi... Il y a malgré tout des équipes compétentes également sur place, mais l'usine, voilà, elle est vieillissante selon une source industrielle et je peux vous dire que ça a l'air d'être poli comme terme utilisé. Les repreneurs, du coup, ne seraient pas légion pour le moment. Il y a donc des vrais doutes pour l'avenir de Duralex. Pour lutter contre cette vague, le gouvernement compte bien marquer des points lors de Choose France. C'est le grand rendez-vous de l'attractivité chaque année au château de Versailles. Sauf énorme surprise, ce sera le 13 mai cette année. À quelques semaines des élections européennes, l'exécutif veut taper très fort avec des projets d'envergure. Bon, ils vont déjà pouvoir se gargariser dès ce matin avec le rapport Ernst & Young qui montre que la France reste la plus attractive en Europe pour les investissements étrangers. Mais ce n'est pas sûr que cette brise d'optimisme suffise à calmer les actuels vents contraires.
Emmanuel Dutheil, vous êtes directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. 7h10, c'est Varoc, c'est l'heure de votre capture d'écran. Un documentaire disponible sur la plateforme Tank a retenu votre attention.
Et oui, c'est l'histoire d'un mot, turker. Les turkers, ce sont ces travailleurs de l'ombre, des forçats du clic, comme on les appelle, qui bossent notamment pour la plateforme de service Amazon Mechanical Turk. Leur job, des mini-tâches qui consistent par exemple à observer minutieusement les images de Google Street View, vous savez, le système de navigation de Google, et il faut flouter chaque visage des passants.
Et ils sont payés combien pour faire ça ?
Alors c'est très variable, mais dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, 1 centime par visage et au bout du compte, moins de 4$ par heure, une rémunération en bon d'achat Amazon. Étudiant, Nathan Casté fut un de ces turkers, depuis il est devenu réalisateur, et il a choisi de raconter la vie de ces hommes et de ces femmes éparpillés sur la planète qui, devant un écran, effectuent ces travaux laborieux. C'est le cas d'Otto, c'est un jeune étudiant belge. Il débute dans cet univers et trouve conseil auprès d'un autre turker, un Américain basé en Thaïlande, conversation sur leur avenir par ordinateur interposé.
Tu penses que les robots feront tout ce qu'on fait ?
Oui, les robots finiront par accomplir les tâches assumées aujourd'hui par les humains. Et à l'avenir, il y aura beaucoup d'humains qui devront trouver comment occuper leur journée parce qu'il n'y aura plus assez de travail.
Je pense qu'on peut garder espoir dans cette situation. Peut-être que les tâches ingrates seront toutes pour les robots et les humains n'auront plus qu'à faire que ce qui leur plaît. Et on profitera de la terre et de la nature.
On comprend leurs craintes. Ouais. Cette question des robots, elle est légitime.
Oui, d'autant que notre jeune étudiant participe à l'entraînement de l'intelligence artificielle. Alors, je vous explique la scène. Otto est devant son écran, une photo apparaît. À lui de dire au logiciel si sur l'image en question, il y a un être humain ou une poubelle, trash en anglais ou garbage. Sur la photo, il s'agit clairement d'un amoncellement de détritus. Donc, Otto énonce clairement trash. Sauf que de toute évidence, la machine en a décidé autrement.
Not human garbage.
Human.
Yes, please.
Il a fini par dire human.
Bah oui, parce qu'il craque en fait face à cet ordinateur qui ne cesse de lui dire please repeat the word, s'il te plaît répète le mot. Il ne peut que s'incliner. Alors de quoi donner à réfléchir sur la façon dont on gère l'intelligence artificielle, mais surtout la façon dont on gère la santé de ces travailleurs isolés devant leur écran à accomplir ces gestes répétitifs qui parfois rendent fou. Depuis des semaines, Otto ne sort plus, ne voit plus ses amis et se nourrit uniquement de nouilles lyophilisées. Et son collègue américain s'inquiète pour lui.
De ce que tu m'as raconté, tu passes beaucoup de temps tout seul chez toi. Je sais bien que tu parles à des gens comme moi, mais il faut que tu sortes, que tu vois des gens. Il ne faut pas négliger ta santé mentale, parce que ça laisse des traces.
Ça laisse des traces, les turkers esclaves des temps modernes, sans aucun doute, au regard de ce travail précaire, faiblement rémunéré, chronophage et sans aucune perspective. Alors au fait, pour la petite histoire, ce thème de turker trouve son origine dans un canular du XVIIIe siècle. Un automate, qui avait l'apparence physique d'un turc, était supposé savoir jouer aux échecs. En réalité, évidemment, à l'intérieur de l'automate en question, il y avait un être humain, une façon de rappeler que malgré les progrès informatiques, derrière chaque algorithme, derrière chaque fonction invisible, se cache des hommes et des femmes exploités, un documentaire sidérant.
En attendant, les robots, c'est à voir sur la plateforme Tank, un documentaire gratuit pendant une semaine.
Exactement.
Pour les auditeurs et les auditrices. Il suffit pour cela de se rendre sur la page capture d'écran via le site ou l'appli de France Inter. Merci beaucoup Eva Rock et merci à Laurent Baudouin pour la réalisation de l'émission, à ses côtés en régie Nasser Madji pour la rédaction en chef, Elisa Mchin pour la préparation de ce 5-7. Je n'oublie pas Maury Baucher et Victor Benigni qui s'occupent des invités et Thierry Dupin pour la musique.
France Inter présente On ne plaisante pas avec l'humour.
La tournée des humoristes France Inter, c'est reparti. Oui, la fine fleur de l'humour du service public, celui qui vous met en joie chaque jour, is back. Oui, l'humour, tous les humours, même l'humour drôle.
On ne plaisante pas avec l'humour, le 24 mai à Clermont-Ferrand et le 23 juin à Lyon.
Au casting, il n'y a que du bon et même de l'excellent.
Toutes les infos sur franceinter.fr.
7h05.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Marie-Pierre Blanchon, la matinée va être encore un peu agitée.
Hein. Et oui Mathilde, est plutôt fraîche hein, pour la saison, on se croirait plutôt en automne avec toujours des pluies sur une très large matière dès ce matin, comprenant les Hauts-de-France, à la Normandie, le bassin parisien. En descendant vers la Méditerranée, encore quelques orages sur les Ardennes et la Lorraine. En revanche, sur l'Aude et les Pyrénées orientales, ça restera sous un ciel plus ou moins nuageux. Il neige déjà à basse altitude pour la saison, 1200 mètres sur les Pyrénées, comme sur le massif central, 1500 sur les Alpes. Mais la Corse sera sous l'influence d'une goutte froide qui reste bloquée sur le golfe de Gênes et qui génère des pluies, des orages, du vent, qui va souffler aussi sur le littoral méditerranéen, mais aussi sur la Manche et les côtes atlantiques, où le ciel est un petit peu moins chargé, mais qui va donner de bonnes averses sur le sud-ouest. En revanche, votre matinée sera plus ensoleillée sur la Bretagne, mais il ne fera pas très chaud ce matin, pas plus de 5 à Quimper, 4 à Millau, 6 à Tarbes, 8 à Tours, 11 à Paris, encore 14 à Metz, comme à Ajaccio et Nice.
Et on garde le parapluie cet après-midi.
Eh oui, sur une large moitié est, parce que les pluies seront encore de nouveau très soutenues. À l'est d'une ligne, on va dire qu'il relierait de la Haute-Normandie à l'Hérault, à la Corse. Pluie, vent et orage sur les Ardennes à nouveau, et sur la Lorraine et la Corse. Et de la neige sur les Alpes, le Massif central et les Pyrénées, alors que sur la façade ouest, le ciel sera, on va dire, un petit peu plus clément, avec de belles éclaircies, mais encore des averses sur une frange qui irait du Maine en descendant vers l'Ariège, sous un mercure en baisse. Hier, vous aviez encore 26 à Strasbourg, pas plus de 19 aujourd'hui. Comptez 14 à Paris, Quimper et 17 à Perpignan.
Marie-Pierre Blanchon, le ciel est peut-être clément, mais alors lui, jamais.
Daniel jamais. Laurent. Un petit mot de foot pour commencer. Hier, le PSG a été battu 1-0 en Allemagne face à Dortmund. Petite analyse technique, Thierry Roland. Ah bah, grosse déception, d'habitude avec les Boches. Non, stop, Thierry, on arrête d'appeler les Allemands les Boches. C'est pas bien, c'est discriminant, ça suffit. Elle avait oublié qu'on était sur France Inter, la radio tout comme il faut. Bon bah je recommence. Je suis déçu, d'habitude, il y a du beau jeu avec les Cheleux. Mais hier, je me suis emmerdé, très déçu du comportement des Spoons. Du coup, j'ai rien à dire, mais je reste quand même. Comme on est jeudi, j'attends le conseil Petit Porno Régional de Clément Pétraud. Ah, le souci, c'est que pas de porno régional ce matin. Clément Pétraud n'est pas là aujourd'hui. Il est toujours en prison, je crois. Bon, alors, j'ai bien demandé à sa remplaçante du jour, Mathilde Dupoint, mais elle m'a répondu amusée. Tu sais, le genre de porno que je regarde, c'est un peu trop hard pour toi. T'es pas prêt, laisse tomber Minou. Elle m'a appelé Minou. Minou. Bon, je trouve ça un peu cavalier, mais bon, pour une fois qu'il y a une Mathilde sympa dans le studio. Sinon, hier, je vous parlais d'un de mes héros, hein, Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, qui encourage ses athlètes à péter la gueule à leurs concurrents pendant les JO. Eh bien, sachez qu'en France, j'ai aussi beaucoup d'admiration pour certains de nos élus. Depuis la mise en retraite du couple Balkany... Couple Balkany, couple phare des années 80, 90 et 2000, qui incarnait pour moi un exemple remarquable de gestion de la ville, un sens du commerce et de la convivialité très pointu et une grande faculté à optimiser la fiscalité. Depuis leur scandaleuse mise à l'écart, mais je me sentais orphelin. Puis en parcourant la presse, la joie est revenue. Je retrouvais l'enthousiasme de l'espoir. Est-ce que vous connaissez Alain Ferrand ?
Non.
Alain Ferrand, c'est le maire de Barcarès, charmante petite cité portuaire près de Perpignan. Eh ben moi, Alain, il y a un truc. J'en veux pour preuve le surnom qu'on lui donne dans la région. Le Balkany du Sud. Pour moi, bah, tout simplement, c'est l'or national du mérite. Bref, vous allez voir, le mec fait partie de la race des grands. Des très grands, hein. Il a été arrêté, mis en examen avant-hier pour corruption, prise illégale d'intérêt, favoritisme. Attendez, c'est pas tout. Il a été interpellé à ses descentes d'avion. Avion qui arrivait du Congo. Sur lui, en cash, 30 000 euros et 10 000 dollars. Bam ! C'est qui le patron, alors ? Du coup, on rajoute une petite ligne au dossier, hein. Blanchiment et transfert non déclaré de sommes provenant de l'étranger. Eh oui, les amis, je crois qu'on a trouvé la perle rare. Il paraît que son truc, à lui, c'est l'attribution des contrats pour le marché de Noël de sa ville. C'est un marché gigantesque qui rapporte des brouettes de cash. Et depuis de nombreuses années, c'est des amis à mon Alain qui ont le contrat. Eh ben ouais, maintenant, tu ne veux plus rien faire. T'es fidèle à un héritier, bim, on me tombe dessus. Ah bah ben ouais, c'est comme ça. Ah oui. La corruption dans le service public.
Ça, c'est pour vous, Nicolas.
Brouette de cash.
Vaste dossier, les amis. Tiens, ben, à ce propos, peu de gens le savent, mais notre célèbre voisin, là, qui est en train de ricaner, et il avait envisagé un temps un concept de matinale un peu spécial. Salut, bienvenue dans le 7-10 de l'optimisation fiscale et de la gruge. Bienvenue dans Nico Zéro Impôt. Ce matin, comment planquer son or en Suisse avec Dominique Seux. Dossier du jour, comment blanchir toute sa thune.